and let's make America great again.
We just need to remember, there's nothing we cannot do if we do it together. Together.
L'élection américaine est un Far West où tous les coups tordus, les coups bas, les coups d'éclat sont permis. Je m'appelle Magali Barthès. Depuis 2001, pour LCI, je regarde et je me passionne pour ce pays où décidément rien ne se passe comme ailleurs. Avec mes invités, je vais vous faire vivre cette campagne au plus près. Nous allons nous mettre dans la peau d'un électeur américain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Far West. Nous voilà de retour à Washington avec Géraldine Noël.
Bonjour à tous.
On va suivre ensemble pour LCI ces jours sous haute tension avant l'investiture de Joe Biden dans cette capitale fédérale qui est, je peux vous le dire, métamorphosée. Washington vivait déjà au ralenti avec la pandémie. C'est maintenant une ville en état de siège. La garde nationale est partout, quadrille la ville. Jusqu'à 20 000 soldats seront mobilisés d'ici mercredi. Des barrages de police bloquent les grandes artères. Des immenses grillages protègent le Capitole. La Cour suprême, la Maison Blanche, il est impossible d'approcher. Les autorités redoutent de nouvelles violences. Il faut dire que sur les forums, les Trumpistes les plus radicaux continuent de crier au vol de l'élection et appellent à la mobilisation d'ici au 20 janvier et l'investiture. La pression monte et les habitants de Washington que nous croisons sont inquiets.
Post-9/11. Après le 11 septembre, la ville ressemblait un peu à ça, mais jamais depuis. Cette sécurité, elle est nécessaire. Personne ne veut revoir ce qui s'est passé au Capitole.
C'est une ville fantôme. Et oui, tout ça, ça fait peur, surtout qu'en tant qu'Africaine-Américaine, j'ai le sentiment d'être une cible.
Je travaille dans cet immeuble un peu plus bas et les autorités nous ont déjà prévenu qu'il fallait se préparer des violences. Le quartier complet est en alerte, c'est pour ça que tout est fermé.
Dans un instant, on retrouvera Renaud Beauchard, qui est prof d'université ici, qui a travaillé sur le trumpisme. On parlera avec lui de l'héritage de Donald Trump. Mais d'abord, je suis avec Catherine Gentil de Cannecôte, correspondante de TF1 de LCI à Washington. Bonjour Catherine.
Bonjour Magali.
Tu as beaucoup suivi, hein, évidemment, avec nous et tu as beaucoup participé à ce podcast Far West depuis plusieurs mois. Je t'ai donné rendez-vous devant cette Maison Blanche qui est totalement bunkerisée. Catherine, quelle fin de règne quand même, quel feuilleton. Tu étais en direct sur LCI, toute cette fameuse soirée du 6 janvier, le jour de l'assaut du Capitole, le jour où tout a dérapé. Qu'est-ce que tu en retiendras? Qu'est-ce qui finalement t'a le plus marqué?
Que c'est un peu au-delà effectivement de tout ce qu'on pouvait imaginer, mais c'est vrai que ça correspond tellement bien à ces 4 ans de mandat de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir en ayant fait exploser le politiquement correct, en ayant franchi toutes les lignes rouges, et il termine en ayant quasiment conduit à l'implosion de son pays, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cohérence dans cette espèce de grandiloquence politique où il a coché toutes les cases et où finalement, effectivement, il a chauffé à blanc dans la dernière ligne droite ses supporters et sûrement au-delà de ce qu'il pensait lui-même, mais il a été tellement habitué, je pense, durant 4 ans à cette rhétorique guerrière où finalement il n'y avait jamais vraiment de conséquences, il n'avait pas été destitué, il n'y avait pas eu de violence justement, réelle. Donc je pense qu'il s'autorisait tout. Et puis, il a été rattrapé par le dur principe de réalité. Il n'était plus du tout dans la vérité alternative. Et là, effectivement, on s'est retrouvé avec cette explosion de violence au Capitole qui a laissé sidérer les États-Unis et le monde, en fait.
Alors, on sait aujourd'hui que certains policiers du Capitole ont été complices, on peut le dire, des émeutiers. Certains ont été suspendus. Il y a une douzaine d'autres qui sont visés par des enquêtes. Où est-ce qu'on en est, justement, de ces enquêtes? Que sait-on de plus?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le FBI et les Secret Service pensent qu'ils vont arrêter des centaines de personnes. Ils sont en train de travailler jour et nuit pour les identifier avec les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et puis les informations qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Il y a eu beaucoup d'appels apparemment d'Américains, justement, auprès de la police pour dire « je reconnais mon voisin, je reconnais XY ». Donc, effectivement, sûrement que la répression va être très forte pour servir d'exemple, pour qu'une chose pareille, évidemment, ne se reproduise plus jamais. Et donc, effectivement, on s'attend dans les jours et les semaines qui viennent à des centaines d'arrestations et à des procès qui seront faits aussi pour marquer les esprits et qu'une fois pour toutes, le message passe qu'on ne s'attaque pas au Capitole, on ne s'attaque pas à ce qui représente l'État et la démocratie américaine.
Mais que des policiers, c'est ce qu'on entend, aient laissé entrer certains émeutiers, les aient guidés même au sein du Capitole, c'est une surprise ?
Mais on dit qu'un certain nombre d'entre eux, en fait, étaient peut-être assez proches des théories de QAnon, qui est évidemment le porte-voix de l'extrême droite, complètement paranoïaque, qui considère qu'en fait, c'est un réseau pédophile avec Hillary Clinton en tête, qui dirigerait en sous-main l'État américain, et qui a pris de plus en plus, justement, qui a rencontré de plus en plus d'échos sous la présidence de Donald Trump, puisque c'est à ce moment-là qu'est né QAnon. Maintenant, il y a deux parlementaires qui s'en réclament quasiment ouvertement. Donc, effectivement, on pense que ces policiers étaient très proches de ces thèses. Effectivement, la question se pose, est-ce qu'ils étaient complices en amont ? Est-ce que dans le feu de l'action, ils ont laissé passer des gens dont ils considéraient qu'ils étaient proches d'un point de vue idéologique ? C'est l'enquête qui le déterminera, mais c'est fort possible.
Alors, quand on voit la ville aujourd'hui, on se dit quand même qu'on est passé d'un extrême à l'autre, d'une sécurité défaillante le 6 janvier au Capitole. Aujourd'hui, un déploiement de forces hors normes. Le but, c'est de dissuader de nouveaux manifestants. Est-ce que le risque de nouveaux débordements, il est réel, d'après toi ?
Mais en tout cas, c'est ce que pensent les habitants de Washington, parce que moi, tous mes amis ici me disent que, pour certains, ils ont fait partir leurs enfants, carrément, ils les ont envoyés chez les grands-parents à la campagne, ou même les adultes ont quitté la ville en attendant le 21, après l'investiture de Joe Biden. Il y a beaucoup de quartiers qui sont complètement déserts, et c'est vrai qu'on s'attend quand même à des violences, parce que sur les réseaux sociaux, les plus extrémistes disent qu'évidemment, ils veulent faire une démonstration de force, qui sera la dernière de l'époque Trump, mais leur objectif avant tout, c'est Washington, parce qu'en plus avec ce qui s'est passé au Capitole, évidemment, c'est plus que jamais un symbole. Ils veulent s'en prendre à tout ce qui représente, tout ce qui cristallise leur haine, c'est-à-dire à la fois le politique, mais aussi la presse, c'est-à-dire qu'ils ont prévenu, si on peut dire, les journalistes que durant ces journées-là, eh bien, la presse serait aussi une cible. Donc effectivement, c'est quand même extrêmement violent, extrêmement dangereux, et c'est pour ça que ce sont des moyens hors normes qu'on n'a pas vu depuis le 11 septembre, qui ont été déployés à Washington.
Alors, les démocrates sont bien décidés à faire payer Donald Trump, qui est donc visé par une nouvelle procédure d'impeachment. Ça y est, la Chambre des représentants, d'ailleurs, avec le soutien de certains élus républicains, a voté le déclenchement de cette procédure de destitution. C'est la première étape avant le procès, un procès au Sénat. On va d'ailleurs écouter Nancy Pelosi, la leader des démocrates à la Chambre, la bête noire de Donald Trump.
Nous savons que le président a poussé à cette insurrection, cette rébellion armée contre notre pays. Il doit partir. Il est un danger pour notre nation que nous aimons tant. Les émeutiers ont été envoyés ici par le président qui leur disait « battez-vous comme des diables ». Les mots comptent. La vérité compte. La responsabilité compte.
Jamais dans l'histoire américaine, on a vu un président faire l'objet de deux procédures de destitution. Est-ce que tu dirais qu'il y a un esprit de revanche chez les démocrates en ce moment ?
Oui, vraisemblablement, parce que le combat a été tellement violent durant ces quatre ans que là, ils sentent pour la première fois Donald Trump affaibli. C'est la première fois que cette bête de scène, cette bête politique a un genou à terre, au moins. Et donc, effectivement, il doit y avoir un esprit de revanche, mais il y a aussi la volonté d'essayer de contrôler l'avenir. C'est-à-dire que si ils réussissent à faire voter cette espèce d'annexe à l'impeachment qui fera que Donald Trump ne pourra plus jamais se présenter à une élection présidentielle. Je pense que les démocrates et les républicains qui vont voter avec eux se disent que ça vaut la peine de jouer cette carte-là, parce qu'au moins tout ce que représente Donald Trump de violence, de mauvais souvenirs pour une partie des Américains et évidemment pour les démocrates, eh ben on est sûr d'en être débarrassé pour l'éternité, si je puis dire, puisqu'il ne pourra plus se présenter si leur plan fonctionne à une élection présidentielle.
Le procès Trump, il pourrait avoir lieu après le 20 janvier, après l'investiture, c'est une possibilité ?
C'est une possibilité justement dans cet objectif, c'est-à-dire de réussir à l'empêcher à vie de se présenter à une élection présidentielle, puisque la rumeur qui circule, c'est quand même que justement le 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden, son successeur, il veut annoncer qu'il sera candidat dans 4 ans pour une nouvelle fois attirer la lumière sur lui et une nouvelle fois nuire à Joe Biden.
C'est quand même l'humiliation suprême pour Donald Trump. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il le vit et comment est-ce qu'il vit ces derniers jours à la Maison-Blanche ?
Ben pour lui, c'est plus que la double peine, parce que déjà, c'est la première fois qu'un président aura eu deux fois une procédure d'impeachment. Et puis là, si ça réussit, évidemment, c'est unique dans l'histoire des États-Unis. Ce qu'on croit savoir, c'est qu'effectivement, il est un peu reclus dans la Maison-Blanche. Il est de plus en plus isolé, parce qu'évidemment, c'est le vieux phénomène des rats qui quittent le navire. Donc maintenant qu'il est plus au fait de sa puissance, ceux qui supportaient ses excès, sa mauvaise humeur, enfin tous ses défauts, maintenant, ont toute l'attitude pour partir. Mais apparemment, il n'a pas l'air très conscient de ce qu'il a déclenché, parce qu'il n'a absolument pas reconnu l'ombre d'une responsabilité dans les violences. Et maintenant, il appelle effectivement à l'apaisement et il dit que surtout, il ne faut plus qu'il y ait de violence. Mais on a l'impression qu'il est quand même un peu hors sol et qu'il n'a pas pris tout à fait la mesure de ce qui s'est passé.
Alors, c'est vrai que les démissions se sont enchaînées hein, depuis le 6 janvier. Est-ce que tu dirais que Donald Trump est devenu un paria ?
Il est devenu un paria, mais en même temps, pas complètement quand même pour les Républicains, parce qu'on voit qu'il y en a pas mal qui justement n'insultent pas l'avenir, qui se font un peu oublier. C'était une des thèses de ces démissions en chaîne d'ailleurs dans l'entourage de Trump, c'est qu'on a beaucoup dit aussi que certains d'entre eux ne voulaient pas avoir à se prononcer sur la possibilité du recours au 25e amendement, qui permet de dire que le président n'est plus apte à exercer le pouvoir et donc à lui demander de partir. Et justement, ces Républicains qui ont démissionné, pour certains, ne veulent pas qu'on dise un jour un peu plus tard, ils étaient pour le 25e amendement, donc en fait, ils jouent un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'ils partent pour se racheter une virginité et en même temps, sans se fâcher, en ayant dit ce qu'ils pouvaient penser du 25e amendement.
Alors, les comptes Twitter, on en parle beaucoup en France, les comptes Facebook de Donald Trump ont été bloqués, son dernier discours d'ailleurs a même été interrompu par certaines chaînes de télé américaines. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas contre-productif ? Ça va pas faire qu'attiser la rancœur de ses partisans ?
Si, bien sûr. Et puis, ça va, je pense, encore amplifier ce sentiment presque paranoïaque où depuis 4 ans, ils ont... D'abord, il y a 4 ans, ils ont élu Donald Trump parce qu'ils sentaient les Américains abandonnés, ceux dont on parlait jamais, ceux dont on s'occupait jamais. Donc, c'est déjà parti de ce sentiment-là pour la plupart des électeurs. Et là, ça se termine justement avec, après avoir été chauffé à blanc durant 4 ans, où Trump leur disait que, hormis lui, personne n'allait s'occuper d'eux, personne n'allait s'inquiéter de leur sort. Là, évidemment, ça vient renforcer ce sentiment, ça veut dire on n'a même plus le droit à la parole, c'est-à-dire que non seulement on nous a volé notre élection, parce que c'est ce qu'ils pensent, mais en plus on n'a plus le droit de s'exprimer, donc ils disent mais c'est pire que le communisme, enfin bref, ça risque d'amplifier effectivement ce ressentiment, même cette haine que certains trumpistes, certains électeurs trumpistes ont par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et médias, où on dit, bah, voilà, c'est tout ça, c'est une grande manipulation contre nous, quoi.
Merci beaucoup Catherine, on te retrouve bien sûr sur LCI, sur TF1 pour vivre ensemble cette passation de pouvoir, mais en attendant jusqu'au 20 janvier à midi, c'est bien toujours Donald Trump qui est aux manettes. On va écouter d'ailleurs le président.
Nous ne voulons pas de violence, jamais de violence. Mais cet impeachment, c'est une chasse aux sorcières, la pire qu'ait jamais connue notre pays. C'est complètement ridicule. Cet impeachment ne fait qu'augmenter la colère. C'est une chose terrible qu'ils font.
Bonjour Renaud Bauchard.
Bonjour Magali Barthès.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur de droit à l'université ici à Washington et vous contribuez notamment à plusieurs revues, je pense au Figaro. Il y a quelque temps, vous aviez fait toute une analyse sur le trumpisme et j'aimerais qu'on en discute ensemble aujourd'hui. Alors toute cette séquence, depuis le 6 janvier, l'assaut du Capitole, la mise en accusation de Donald Trump, déjà, est-ce que pour la majorité des électeurs républicains, est-ce que, d'après vous, ça décrédibilise le trumpisme ou c'est tout l'inverse ?
Alors, c'est conçu pour le décrédibiliser. Ça décrédibilise Trump lui-même, mais Trump était décrédibilisé par sa défaite électorale, de toute façon. Maintenant, il faut quand même réfléchir à ce que c'est, pour les électeurs républicains, lancer une nouvelle procédure d'impeachment avec dix jours avant, même pas 10 jours d'ailleurs, avant l'investiture de Joseph Biden, alors que Trump lui-même a déclaré qu'il s'en irait le lendemain des manifestations du Capitole, est quelque chose d'incompréhensible. Ça n'a, en fait, ça se comprend si on sait que ça a pour objet de forclore, en fait, le retour de Trump en 2024.
Le rendre inéligible.
Ah oui, parce que si le procès en impeachment qui se passera après l'investiture de Biden aboutit à son terme, c'est-à-dire à une condamnation de Trump, Trump ne peut plus prétendre à aucune fonction au sein des institutions américaines. Donc, il est forclos pour devenir le candidat du Parti républicain en 2024.
Alors, on voit que les ténors républicains sont quand même de plus en plus nombreux à lâcher le président. Certains veulent vraiment tourner la page Trump au plus vite. Est-ce que, d'après vous, ça va être si facile que ça? Est-ce que la base du parti va suivre?
Ah non, ça, la base du parti ne veut absolument pas qu'on revienne, en fait, au parti d'un George W. Bush. C'est les lignes du trumpisme. La principale d'entre elles étant la fin de l'aventurisme militaire, une autre étant en fait le rééquilibrage du commerce international.
Et le puis protectionnisme.
Lorsque vous avez un commerce international aussi déséquilibré, c'est ce qui en fait a créé une classe moyenne exsangue aux États-Unis. Et ça, c'est un thème très 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 fort du trumpisme. L'autre thème, bien évidemment, c'est une immigration maîtrisée.
Donc si je vous écoute, le Parti républicain va imploser en fait entre ces deux tendances. La tendance conservatrice traditionnelle et puis la tendance plus populiste d'un Donald Trump.
Oui, mais les électeurs, la base en fait, l'électorat du Parti républicain ne veut plus entendre parler de l'aile du Parti des hiérarches habituels en fait du Parti républicain qui veulent en faire en fait une sorte de parti de country club qui chasse les quelques donateurs qui ne seraient pas déjà passés du côté démocrate.
Je voudrais vous demander comment est-ce que vous voyez la suite pour Donald Trump? Est-ce qu'il a encore un avenir politique ou est-ce que son avenir est ailleurs?
Donc c'est pas un avenir politique, c'est un avenir de chef de clan, mais il n'a pas les épaules pour assumer un rôle de chef de guerre en même temps.
Pourquoi est-ce que vous dites ça?
Il a prouvé pendant toute sa présidence que il a des intuitions, il a un style. Un style assez abrasif, mais il a aussi prouvé qu'il était en fait incapable il n'avait pas les qualités de dédication, de volonté, d'acharnement et puis de constance, une sorte de leader populaire, mais qui est incapable de générer autour de lui un véritable mouvement politique sérieux.
Le fait que ses enfants puissent être des successeurs possibles, vous n'y croyez pas?
Mon Dieu. il a été élu, en même temps, il faut quand même se rappeler, il a été élu alors que le script programmé était Hillary Clinton, femme d'un ancien président, et Jeb Bush, fils et frère de deux anciens présidents. Il a été élu quelque part contre ça. Ce serait quand même paradoxal que ses enfants viennent maintenant revendiquer en fait le titre à poursuivre. Ça suffit, les dynasties. Je pense que là, la totalité des Américains en ont assez.
Vous craignez des violences?
Oui, je les crains et malheureusement, je pense que nous rentrons dans une période d'affrontement violent. Je pense qu'il va falloir particulièrement s'habituer en fait aux heurts violents entre et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je pressentais le plus en fait pour les événements de la semaine dernière. Il va falloir s'habituer en fait aux heurts violents en fait entre les militants antifa Et les espèces de groupuscules qu'on a vus à l'œuvre la semaine dernière, qui sont en fait des espèces de milices plus ou moins armées. La semaine dernière, ils n'étaient pas armés, mais il faut redouter des affrontements avec des armes à feu de différentes factions.
Il y a une image, je voudrais qu'on termine par ça, il y a une image très symbolique le jour de l'investiture qui est prévue. Après la prestation de serment, Joe Biden se rendra avec les anciens présidents démocrates, Barack Obama, Bill Clinton, et avec l'ancien président républicain, George W. Bush, au cimetière national d'Arlington. C'est une image d'unité, de réconciliation que veut imposer Joe Biden. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation du pays que Joe Biden veut essayer coûte que coûte d'entamer, est-ce qu'elle est possible, cette réconciliation ?
Dans le contexte actuel, elle est impossible. On a une espèce de diabolisation de toute une moitié d'Amérique qui fait que c'est impossible. J'ajoute à ça quand même la présence de George W. Bush qui est quand même assez forte de café, puisque George W. Bush est quand même le président en même temps qui a envahi un pays étranger sous des prétextes mensongers, qui a légitimé la torture, qui a institué le programme de surveillance le plus gigantesque de l'histoire de l'humanité. Et je trouve ça extraordinaire qu'on diabolise à ce point en fait les quatre années de Trump et qu'on réintègre dans le giron de la respectabilité un individu aussi sinistre que George W. Bush.
Merci beaucoup Renaud Bochard. Merci de nous avoir donné votre analyse, d'avoir été avec nous. Merci Géraldine Noël. Merci de m'avoir accompagnée pour l'enregistrement de ce nouvel épisode de Far West. Investiture donc 20 janvier à midi, on sera là bien sûr. Et puis comptez sur nous pour vous faire vivre les premiers pas de Joe Biden. À très vite.